divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Yvan Gastaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, maître de conférences à l'Université de Nice, membre du laboratoire URMIS, unité de recherche Migration et Société, et membre du comité d'orientation du musée de l'immigration à la Porte Dorée à Paris, où a lieu en ce moment même et depuis le mois de novembre une passionnante exposition dont vous avez été avec la politologue Catherine Vitold de Vinden, co-commissaire. Cette exposition a plusieurs titres. Elle est intitulée « Frontières » au pluriel, « Les limites et leurs limites » et autre titre « Bienvenue de l'autre côté ». Peut-être ma première question, qui est celle que je pose à l'historien du monde contemporain que vous êtes, cette exposition dont le thème a été retenu, je crois, il y a déjà 3 ans, et qui est d'une très grande actualité. Est-ce que, précisément, l'actualité de cette question, les trop nombreux naufrages en mer aux portes de l'Europe, la fermeture récente de certaines frontières, pendant le temps de la préparation de l'exposition, vous ont fait modifier vos présupposés de départ, et comment ?
Alors, il est vrai que c'est une exposition dont il faut raconter la genèse et la conception, puisque vous avez raison de présenter le fait qu'elle est venue percuter l'actualité, puisque son inauguration a été organisée le 9 novembre et que les attentats du 13 novembre ont suivi très rapidement, donc comme réponse à ces attentats
l'état d'urgence,
la question d'état d'urgence et en partie de fermeture des frontières. Et c'est vrai que lorsque nous avons conçu cette exposition, le thème des frontières, bien que présent dans l'actualité, un peu comme une lame de fond, n'était pas le thème central de l'actualité. Donc ce n'était pas une exposition qui avait pour vocation de venir éclairer une actualité brûlante.
Oui.
C'est plutôt une exposition qui avait pour ambition de faire un peu le point, comme souvent les expositions de société, le point sur un sujet abordé par diverses sciences humaines, sociales et politiques.
Mm-hmm.
Vous avez raison aussi d'évoquer le fait que c'est une exposition lancée par un historien, une politologue, une géopolitologue, et cette ambition a été lancée en 2010-2011 à partir surtout de travaux scientifiques.
Mm-hmm.
Et progressivement, ce thème est devenu de plus en plus pressant, de plus en plus prégnant dans l'actualité.
Mm-hmm.
Notre propos n'a pas beaucoup changé. On a plutôt modifié des choses aux marges, essayer d'actualiser certains aspects, de les rendre plus fidèles aux interrogations du visiteur qui évidemment suit l'actualité de très près. Mais globalement, notre parti pris est resté le même. On peut bien sûr se féliciter d'une certaine manière que cette exposition tombe à pic, mais qu'en même temps, bien entendu, c'est une actualité bien souvent tragique,
et
donc c'est aussi quelque part un sujet compliqué.
Oui, je comprends. Bon, dans cette exposition, il y a quelques partis pris très intéressants, et notamment la volonté de mêler l'art. Alors je pense à cette œuvre qui ouvre l'exposition, le Mare Mortuum, par opposition au Mare Nostrum de Combo, l'installation vidéo de Bruno Bongelal,
intitulé Bruno Bongelal, effectivement.
Ouais. Donc, à la fois des œuvres d'art et puis des documents très nombreux, des documentaires. Votre parti pris étant, me semble-t-il, de vouloir incarner autrement, et pourtant, là encore, il s'agit d'incarnation, autrement que par les nombreux témoignages de migrants, terme d'ailleurs sur lequel j'aimerais bien que vous reveniez, parce que il me paraît terriblement administratif, et peut-être qu'on peut lui préférer d'autres, je pense au terme de voyageur, qui n'est pas juste non plus. Bon.
Oui, c'est de nommer les personnes.
Ouais, c'est difficile. Ouais, c'est une question difficile, celle-là. Donc, vous avez choisi d'incarner ces récits de vie d'hommes, de femmes, d'enfants, passant les frontières pour fuir des régions devenues, pour eux, très peu vivables. Et Et c'est cela, la volonté de mêler les œuvres d'art aux documents ?
Oui, mêler les œuvres d'art aux documents a été une ambition forte qui permet de parcourir l'exposition de plusieurs manières. Peut-être en alternant aussi, en fonction de qui on est et des questions qu'on a à se poser. Ça peut être une exposition très pédagogique, ouverte, hein, notamment, je pense, aux classes de lycée, de collège, voire primaire. Mm-hmm. Bien sûr, beaucoup de cartes, beaucoup d'explications ponctuelles, statistiques, cartographiques, parce qu'il y a beaucoup, là, quand on parle des frontières, il s'agissait pour nous principalement aussi de travailler sur la matérialité des frontières, c'est-à-dire qu'est-ce qui les caractérise. Donc, il s'agit de montrer des cartes, des photographies, des éléments qui les mettent en scène sur un plan physique, hein, plus que les frontières mentales ou les frontières imaginaires. Hein, on est plutôt dans du concret, là, dans ce cadre-là. Et donc, pour contrebalancer un petit peu cette notion concrète, il nous est apparu assez immédiatement la nécessité de faire appel aux artistes créateurs avec des œuvres fortes qui permettent de parfois de rêver ou de sortir du réel pour voir comment les artistes peuvent tout à fait s'accaparer ce thème des frontières, souvent pour dire des choses fortes autour du sujet.
Sortir du réel, pardonnez-moi, sortir du réel ou y rentrer très fortement. Et peut-être vous pourriez expliquer aux auditeurs de France Culture le travail de Bruno Bongelal là-dessus.
Alors le travail de Bruno Bongelal, c'est un travail qui est important dans notre exposition puisqu'il est positionné juste au moment où on rentre.
Ouais.
Dans l'exposition, il s'agit d'une installation. Bruno Bongelal est un artiste franco-algérien né à Paris au début des années 60, en 1961, qui a beaucoup utilisé des matières d'expression assez modernes pour dire l'immigration. Mmh. Et notre parti pris aussi, ça a été à côté de cette alliance œuvre d'art et pédagogie de travailler sur le passage des frontières, le franchissement des frontières du point de vue des migrants. Hein, nous sommes au musée d'histoire de l'immigration et le point de vue des migrants nous semble important dans la manière dont ils voient les frontières de leur côté.
Absolument. Hein,
du point de vue administratif. Donc notre ambition c'était de se mettre aussi du côté de ceux qui traversent, qui ont le projet d'immigrer.
Donc cette œuvre.
Donc Bruno Bongelal a eu cette capacité à utiliser des bouts de films de téléphone portable que les migrants ont par devers eux et des films qu'ils ont pris lorsqu'ils étaient dans des embarcations de fortune en mer ou à l'arrivée sur des terres pour immortaliser des épisodes forts de leur vie. Et il en a fait un mur d'image avec du son qui
c'est
est, je pense, une installation très forte qui nous permet d'entrer dans l'exposition.
Très forte, hein, avec tous les bruits, les sons, la mer,
oui.
Les voilà, dangers, les peurs.
Une exposition avec beaucoup de sons, c'est très sonore et donc cette œuvre est assez, assez importante pour nous.
Complètement, elle illustre parfaitement le bienvenu de l'autre côté, puisqu'on est du côté de ceux qui passent les frontières.
Voilà. Et puis on est un peu embarqué avec cette œuvre, on est un peu embarqué dans un canot de fortune.
Mais bien sûr.
Ce qui est quand même un élément qui a beaucoup marqué notre imaginaire face au drame de l'immigration ces derniers mois.
Absolument. Alors cette exposition est très structurée. On peut peut-être parler pour les auditeurs des quatre moments qui la structurent. Les murs, frontières dans le monde, vers une Europe des frontières, la France comme point de passage, et puis cette dernière partie qui est comme une conclusion ou une ouverture sur un monde sans frontières.
Voilà, une interrogation. Alors vous avez remarqué effectivement que nous sommes dans une interrogation un peu qui passe du macro au micro, du très général au particulier, enfin si on peut parler du particulier, c'est-à-dire des points de passage en France. Ça a été aussi cette ambition d'être assez clair dans notre propos, structuré en parties qui sont un petit peu des passages dans la zone d'exposition temporaire du musée d'histoire de l'immigration.
Mm-hmm.
Avant, juste une chose aussi, c'est que nous sommes accueillis par Bruno Bongelal et ses œuvres, nous sommes aussi accueillis par deux, et ça nous permet d'évoquer la première partie, par deux immenses photographies
magnifiques,
très lointaines, qui sont aussi très très belles, très bien mises en scène par nos collègues scénographes, c'est-à-dire le mur
d'Adrien,
la muraille de Chine et le mur d'Adrien qui rappelle des histoires très anciennes où les murailles étaient déjà des manières justement de séparer le « eux » et le « nous »,
bien sûr,
les civilisés des barbares. Et quelque part on comprend bien entre d'un côté ces œuvres contemporaines de Bongelal et ces photographie imposante des murs très anciens, que la réponse actuelle aux questions liées à l'immigration sont des réponses d'un archaïsme confondant, on pourrait dire, puisque la solution, c'est les murs. Et c'est comme ça qu'on entre dans l'exposition. On a voulu finalement traiter d'une actualité brûlante, c'est-à-dire ces murailles qui sont aujourd'hui notre monde général. Hein. On retrouve comme ça plusieurs points chauds que on décline à travers une carte, des photographies et une explication qui fait que, donc, par exemple, le mur entre l'Inde et le Bangladesh, le mur de séparation entre qu'on appelle le mur Bush entre les États-Unis et le Mexique, le mur qui sépare les populations entre Israël et Cisjordanie, et enfin le mur de Corée, qui sont évidemment quatre points chauds importants, qui ne sont pas les seuls, bien sûr, mais qui mettent en scène une séparation des populations pour des raisons qui peuvent parfois varier. Par exemple, le mur de Corée, ce sont deux populations qui ont été séparées par la guerre froide, mais qui restent séparées aujourd'hui d'une manière assez ferme. Le mur entre les États-Unis et le Mexique sont des murs destinés à séparer et à contenir l'immigration des Latinos, mais comment contenir cette immigration ? Évidemment, ça semble très compliqué. Il y a là aussi un message politique fort venu des États-Unis qui semble ne pas devoir se calmer avec les perspectives de Donald Trump. Et puis également, voilà, le mur entre Israël et Cisjordanie, qui est un mur qui est un peu différent parce qu'il sépare des populations d'un même territoire. Il est très alambiqué, la carte le montre très bien. Et quelque part, on y voit là cette volonté de séparer qui, au final de cette première partie, montre le caractère très vain, un petit peu, voire dangereux, de vouloir créer des formes d'apartheid, parce que quelque part le mur c'est un peu ça, c'est séparer des populations inséparables
bien
d'une certaine manière, parce
des
que le mythe de la pureté se retrouve derrière toutes ces murailles qui sont de plus en plus fortifiées, de plus en plus modernisées par la technique.
Absolument.
Et bien ces dernières années, ces murs ont fleuri et ils sont une réponse apparemment de la modernité sur l'immigration, ce qui est évidemment assez inquiétant.
Absolument. Bon, dans cette exposition, il y a des questions, plein de questions abordées. Hein, on ne pourra pas les évoquer toutes. Par exemple, le mur de Berlin, dont on n'a pas parlé là, mais qui est très intelligemment traité dans l'exposition. Il y a des questions donc, qui m'ont passionné ou peut-être touché plus que d'autres. Je pense par exemple au témoignage de Toni Ungerer sur l'Europe des frontières et l'Alsace en particulier, où cette analyse terriblement cruciale de la mort aux frontières.
Pour revenir sur le cas de Toni Ungerer, il y a effectivement quelques personnes qui ont témoigné et qui sont, ces témoignages sont accessibles dans l'exposition. Toni Ungerer en est un très bon exemple. Parce qu'il s'agit d'illustrer le cas fondamental au cœur de l'Europe, de l'Alsace-Moselle, effectivement, qui a connu des modifications frontalières majeures, ce qui pose des problèmes d'identité pour les populations qui s'y trouvent. Un territoire qui est passé de France à Allemagne, et puis d'Allemagne à France, et puis encore de France à Allemagne, et puis d'Allemagne à France. Donc des populations qui se sont retrouvées soit dans l'obligation de changer de nationalité, soit dans l'obligation de quitter leur territoire pour rester en France, d'une certaine manière. Donc émigrer pour rester français, ça a été une ambition de beaucoup, et notamment de la famille du capitaine Dreyfus, qui avait fait ce choix bien malencontreux pour le capitaine en soi s'y concerner. Et Toni Ungerer, qui est né au début des années 30, a connu cette modification frontalière qui lui a apporté, on pourrait dire, une double identité, une double culture française et allemande. Et on montre dans l'exposition comment est-ce que, pendant la guerre, eh bien, ce jeune Toni Ungerer, qui a 12 ou 13 ans, est partagé par la langue française, par la langue allemande, par l'identité française, par l'identité allemande, qui à l'époque étaient deux identités bien distinctes. Et aujourd'hui, celui qui est devenu une personnalité célèbre en écrivant, en dessinant et en écrivant des livres pour enfants, eh bien, reste marqué à la fin de sa vie par cette double appartenance.
Bien
aujourd'hui,
sûr.
Évidemment, c'est un élément qui nous permet de bien comprendre justement comment est-ce que les frontières marquent des personnalités et les marquent parfois définitivement.
Yvan Gasteau, nous allons devoir conclure rapidement cette émission. Alors, j'ai peut-être deux questions que je vais lier, deux dernières questions que je vais lier. Qu'avez-vous appris de cette exposition? Et en rationaliste et en spécialiste des questions de migration, de racisme, de discrimination, Qu'avez-vous appris de cette exposition et quel serait le message que vous voudriez faire passer ?
Écoutez, moi j'ai bien entendu un chercheur qui travaille sur la question des frontières, est un chercheur qui apprend beaucoup justement des relations interculturelles, qui apprend beaucoup de la manière dont se définissent, se redéfinissent les identités. On apprend par exemple qu'il y a aussi des gens de frontières, des personnes qui vivent avec des frontières, des transfrontaliers, mais aussi des personnes qui se jouent des frontières, et on comprend que la frontière, elle est quelque chose de très attractif aussi. On apprend que la frontière, c'est un point de polarisation qui fait que les personnes se rendent, sont focalisées par des points un peu particuliers,
donc...
c'est le cas de Calais par exemple. Et donc, pour ma part, ce que l'on peut comprendre, c'est que essentiellement, le message, et il est effectivement à mon avis rationaliste, c'est qu'il ne faut surtout pas faire d'amalgame, surtout pas penser justement une sorte de pureté qui ferait que les frontières permettraient de séparer des populations pures d'un côté vers des populations pures de l'autre, et que ce monde des frontières est un monde qui sépare souvent les mêmes, et derrière cette dimension, la crainte, la peur qui émerge de cette exposition, c'est justement d'avoir derrière les frontières des idéologies
de la séparation.
De l'absence ou du refus de l'interculturel, du refus du métissage, en enfermant les personnes dans une identité qui se voudrait pure et parfaite, ce qui est évidemment le point de départ des drames les plus difficiles et je dirais les plus meurtriers de notre histoire.
C'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Yvan Gasteau, je vous remercie. Le numéro 639 des cahiers rationalistes contient le très bel article de Gérard Fussmann sur les attentats de novembre dernier. Le numéro 196 de Raison présente porte sur les Lumières et les Hommes. Je rappelle que cette très belle exposition sur les frontières comme limites et leurs limites a lieu au musée de la Porte Dorée jusqu'au 29 mai prochain. Je remercie Dany Journeau et Emmanuel Morse-Duncan qui ont rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain.